Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, bon réveil en ce lundi matin. Nous sommes le 30 novembre et toute l'information arrive avec Sophie Eschen. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 6h.
En considération du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, le placement en détention provisoire des trois premiers policiers a été requis.
Et finalement, ce sont deux policiers qui ont été incarcérés par le juge d'instruction cette nuit dans l'affaire du tabassage d'un producteur de musique à Paris. Les quatre agents impliqués ont tous été mis en examen. Premier bilan plutôt positif pour les commerçants qui ont enfin pu rouvrir ce week-end après un mois d'arrêt. L'inquiétude en revanche pour les producteurs de champagne. Les ventes sont en berne dans une période pourtant cruciale à l'approche des fêtes de fin d'année. Dans ce journal, l'ouverture du procès du pyromane de la rue Mira à Paris, c'était il y a 5 ans. Le médecin de Diego Maradona visé par une enquête pour homicide involontaire. Et puis l'annonce du prix Goncourt aujourd'hui. On vous emmène en Normandie à la fin de ce journal, dans les coulisses de l'imprimerie qui se tient prête à produire les tirages du titre vainqueur.
Et le Goncourt, hein, toujours une garantie de succès en librairie. Mon invité inattendu ce matin en sait quelque chose. Lui qui a adapté au cinéma l'un des Goncourt les plus vendus à l'époque, un roman de Marguerite Duras. Je l'appelle dans un quart d'heure. Et puis on retrouvera Fanny Agostini pour Notre Planète. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les réquisitions du parquet de Paris ont donc été entendues. Les quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler ont été mis en examen. Deux d'entre eux ont été écroués cette nuit. Alors Guillaume Bié, que sait-on exactement du profil de ces quatre policiers ?
Écoutez, c'est la toute première fois de leur carrière que ces quatre policiers sont formellement mis en cause par la justice, des fonctionnaires jusqu'ici sans histoire, y compris le plus expérimenté d'entre eux, un brigadier de 44 ans, aux états de service impeccable depuis près de 20 ans qu'il est affecté dans ce commissariat parisien. C'est lui que l'on voit sur la vidéo, radio à la main, bloquer la porte aux jeunes qui essayent de prêter main forte, lui aussi qui donne plusieurs coups à la victime. Ses deux collègues, gardiens de la paix, ont 23 et 31 ans, le plus âgé est très bien noté, pas le moindre accroc dans son dossier. Quasi rien à signaler pour le plus jeune, celui qui a rédigé le procès verbal d'interpellation d'après nos informations. Quant au quatrième policier, celui qui est arrivé en renfort et qui a lancé la grenade lacrymogène dans le sas d'entrée, il est également bien noté par sa hiérarchie. 35 ans, affecté au commissariat du 17e arrondissement depuis 3 ans et demi. Il a juste été rappelé à l'ordre une fois pour avoir perdu un carnet à souche, une broutille, sans commune mesure avec la gravité de l'affaire dans laquelle ces fonctionnaires sont mis en examen.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1.
C'était un bol d'air ce week-end. Les commerces non essentiels ont pu rouvrir samedi. Ils vont maintenant tenter de combler leur retard avant les fêtes.
Après un mois de fermeture forcée, effectivement, c'est un soulagement pour ces commerçants qui misent énormément sur les 3 semaines à venir. Ce week-end a donné une première tonalité. Alors Clément Le Saffre, quel bilan peut-on en tirer ?
Eh bien, un bilan contrasté. Hein. Si on regarde les grandes villes, la reprise était bonne samedi, mais la dynamique a été stoppée net en fin de journée par les manifestations contre le projet de loi de sécurité globale à Paris, Bordeaux ou encore Rennes. Les commerces de centre-ville affichent une baisse de chiffre d'affaires de 30 à 50% par rapport au même week-end l'an dernier. Une réouverture vécue différemment dans les villes moyennes. Pas de rush dans les boutiques, mais des clients tout de même au rendez-vous. Les coiffeurs, notamment, ont été très sollicités. Et puis, les courses de Noël sont lancées, ça y est. Alors, sans surprise, c'est le secteur du jouet qui s'en sort le mieux. Plus 10% par exemple chez Jouet Club par rapport au même week-end l'an dernier. Les magasins de vêtements s'en sortent bien aussi, se réjouit Eric Mertz, président de la Fédération de l'habillement.
On a eu une très très bonne tenue du secteur prêt-à-porter enfant, même si les ventes femmes et hommes étaient un petit peu en retrait. Toutefois un très bon panier moyen et donc par conséquent un chiffre d'affaires sensiblement identique à celui de l'année dernière à date comparable. Donc on peut considérer que le pari est gagné, la reprise est bien amorcée.
Un début encourageant donc, mais les commerçants anticipent déjà la suite. Ils demandent au gouvernement un report des soldes d'hiver de 2 semaines, du 6 au 20 janvier, le temps de refaire leur trésorerie.
Clément Le Saffre, vous parliez de début donc encourageant pour certains commerçants. En revanche, il y en a qui font grise mine en ce moment, ce sont les producteurs de champagne.
Et oui, privés de restaurants, de bars, de fêtes d'entreprise. Les ventes sont en berne, moins 28% par exemple pour le groupe Laurent Perrier entre avril et septembre. Et ce n'est pas mieux pour les autres producteurs, comme l'a constaté Diane Berger dans la maison de champagne Le Noble à Damary, en plein cœur de la Marne.
C'est un véritable mur de bouteilles de champagne. Plus 1 million de bouteilles soigneusement empilées dans la cave et beaucoup attendent preneurs. D'habitude, Antoine Malassagne en écoule environ 300 000 par an. Mais cette année, Covid oblige, il y en a trop.
Le reconfinement, à partir du mois de novembre, a mis un coup de frein très important à la commercialisation. Nos cabines restent ouvertes, mais il n'y avait pas de flux, il n'y avait pas de clientèle. On finira autour de moins 20%.
Moins 20% de chiffre d'affaires annuel, principalement à cause d'un secteur à l'arrêt cet hiver, l'événementiel. Plus de cocktails, de salons ou de fêtes d'entreprise. Alors aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de caisse à remplir sur le site. Antoine Malassagne a même renoncé à recruter des intérimaires, d'habitude indispensables à cette saison. Ce qu'il espère simplement maintenant, c'est retrouver au moins un semblant d'activité avec les fêtes de Noël et du Nouvel An.
La fin d'année, c'est une période où traditionnellement les gens reconsomment du champagne. Décembre, c'est un gros mois, donc il va peser aussi sur le chiffre final. Ça va repartir, c'est évident.
Mais pas de quoi compenser les pertes de l'année, il le reconnaît. Il lui faudra sans doute entre 18 et 24 mois pour revenir à l'état d'avant la crise.
Un reportage signé Diane Berger.
Et on en reparle dans une demi-heure sur Europe 1 avec mon invité tout à l'heure à 6h40. J'appellerai Carole Duval-Leroy qui dirige la maison de champagne du même nom. C'est dans la Marne. Il est 6h06 sur Europe 1. C'est l'un des incendies criminels les plus meurtriers de ces dernières années à Paris. Le procès du pyromane du 4 rue Mira s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises.
8 morts, dont 2 enfants, c'était en septembre 2015. L'accusé n'est autre que l'un des locataires de l'immeuble. Et pendant un an, Justin Morin, il s'est même fait passer pour une victime.
Oui, c'était certainement l'une des victimes les plus engagées dans l'après. Suivi de l'enquête, soutien auprès des survivants, il a même écrit à la brigade criminelle pour leur demander l'autorisation de créer un journal dans lequel les victimes pourraient témoigner. Cette suractivité, mêlée à des appels incessants au secours, ont paru suspects, mais il est interpellé seulement un an après les faits. En garde à vue, il avoue rapidement et confie avoir mis le feu à une poussette pour attirer l'attention des secours sur son mal-être. Evelyne, propriétaire au 4 rue Mira, le connaissait. Elle se souvient en particulier d'une scène un an après l'incendie, alors qu'elle retournait dans sa cave chercher des affaires.
J'ai entendu du bruit dans le hall et c'était lui qui distribuait des feuilles avec l'incendie en photo pour une commémoration le lendemain. Et il a même demandé à la mairie de Paris de venir. Je trouve ça fou, mais je le pense assez pervers. Alors, c'est lui qui répondra de ça.
L'accusé a évoqué des doubles imaginaires, mais les experts y voient plutôt des déclarations opportunistes et déculpabilisantes. Face à l'un d'eux, il a même avoué « Mes avocats m'ont conseillé d'en parler, on penserait que je suis fou ».
Justin Morin, autre procès qui s'ouvre aujourd'hui à Saintes, celui de Joël Lescouarnec, l'ancien chirurgien de Jonzac, accusé de viol et agression sexuelle sur 4 victimes mineures au moment des faits. Premier volet d'une affaire de pédophilie vertigineuse, la cour d'assises rendra son verdict jeudi.
Europe 1. À suivre cette question, y a-t-il eu des négligences dans les soins prodigués à Diego Maradona? 5 jours après la mort de la star du foot argentin, son médecin est visé par une enquête pour homicide involontaire.
Et puis les coulisses de l'imprimerie prêtes à tirer les futurs prix Goncourt. On connaîtra le lauréat à la mi-journée.
A tout de suite sur Europe 1, 6h08.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h10 sur Europe 1, la suite du journal Sophie Echen.
Et l'heure est aux interrogations. En Argentine, la mort de Diego Maradona aurait-elle pu être évitée? C'est la question que se posent les filles de la star argentine 5 jours après son arrêt cardiaque. La justice a ouvert une enquête pour déterminer si le médecin de Maradona a fait preuve de négligence. Alors, Audevillier-Moriamé, que sait-on à ce stade?
Oui, des perquisitions ont été menées au domicile et à la clinique privée de Leopoldo Luque. C'est le neurochirurgien qui avait opéré Maradona d'un hématome au cerveau début novembre et qui supervisait sa convalescence. Le médecin est visé par une enquête pour homicide involontaire. Dans une conférence de presse auprès des médias argentins hier, Leopoldo Luque s'est défendu de toute négligence.
Il voulait une vie qui était mauvaise pour lui. Je l'accompagnais du mieux que je pouvais. Je lui proposais de sortir, de faire un peu de foot. Il ne voulait pas. Ses parents lui manquaient beaucoup. C'était ça sa vie, il était très triste. Il se punissait d'une façon insupportable. C'est très injuste ce qu'on me reproche. Tout le monde a vu ce que j'ai fait pour lui. Je ne me reproche rien, je suis fier de mon travail. Je ne sais pas pourquoi il cherche un coupable. Moi, je n'en vois nulle part. On a fait tout ce qu'on pouvait pour Diego. On a vraiment fait du mieux qu'on a pu.
En larmes, Leopoldo Luque a déclaré que Maradona était pour lui un ami, qu'il l'aimait comme un père. Mais selon le médecin, c'était aussi un patient très difficile qui ne voulait parfois rien entendre. La justice va examiner les ordinateurs et documents saisis chez Leopoldo Luque et à son bureau. Pour l'heure, le neurochirurgien n'est pas mis en examen.
Audevillier-Moriamé, correspondante d'Europe 1 en Argentine.
Nous connaîtrons aujourd'hui les lauréats des prix Goncourt et Renaudot. L'annonce a été repoussée en attendant que les libraires puissent rouvrir leurs portes.
Et c'est désormais chose faite depuis ce week-end. Le prix Goncourt, c'est le plus prestigieux des prix littéraires français. Les imprimeurs sont dans les starting blocks pour en tirer, en 48 heures à peine, des centaines de milliers d'exemplaires. Nous vous emmenons ce matin auprès des rotatives de Normandie-Roto. C'est là que sont imprimés 3 des 4 livres en lice pour le Goncourt. Romain Oquet.
Dès l'annonce du lauréat, on appuie sur le bouton marche des rotatives et ça démarre. Donc c'est un vrai plan de bataille.
Dans l'usine de 10 000 mètres carrés, Christophe Pillon, le directeur, imprime déjà 3 des 4 livres pressentis pour le Goncourt. Ils sont en vente depuis la rentrée. Pour le lauréat, le tirage sera multiplié par 10.
C'est quand même une loterie. Donc on va se préparer pour chacun des 3 titres. Donc c'est la logistique est multipliée par 3. Les papiers intérieurs sont différents, les papiers de couverture sont différents.
Les bobines de papier, une tonne chacune, sont prêtes, empilées sur 6 mètres de haut.
Plus de 100 bobines qui vont passer sur la rotative. Ça va faire dans les 150 tonnes.
Les rotatives, des monstres de métal, grimpent jusqu'au plafond de l'imprimerie. Chaque heure, 4000 livres devront passer sur les tapis. Arnaud répartit la production.
Il y aura 3 machines de dédiées sur le prix Goncourt. La moitié de nos machines, jour et nuit.
Cette nuit, justement, c'est Jeff et Antoine qui seront aux commandes.
Une nuit de prix Goncourt, on est à peu près une 60aine à travailler. C'est une fourmilière, il y en a partout. À emballer les bouquins et à faire la manutention.
Un marathon olympique.
15 salariés ont même été embauchés pour poser à la main le bandeau rouge sur le livre récompensé. L'étape la plus longue qu'il faudra terminer avant l'arrivée du premier camion à 5h du matin.
Romain Oquet, on connaîtra donc le vainqueur du prix Goncourt à la mi-journée.
Ouais, garantie de succès en librairie. On va en reparler dans 3 minutes avec mon invité inattendu ce matin, qui est un cinéaste qui avait adapté au cinéma l'un des Goncourt les plus vendus. Le journal de 6h vous était présenté par Sophie Echen, 6h13.
Europe Matin, le 5-7.